Vous êtes mesquine et revancharde comme toutes les femelles. Vous aviez raison de dire que Hygiène de l'Assassin comptait seulement deux personnages féminins. Ma grand-mère et ma tante. Léopoldine n'était pas un personnage féminin. Elle était, elle est pour toujours, un enfant, un être miraculeux, au-delà des sexes.
Mais pas au-delà du sexe, d'après ce que j'ai pu comprendre en lisant votre livre.
Nous seuls savions qu'il n'est pas nécessaire d'être pubère pour faire l'amour. Au contraire, la puberté vient tout gâcher. Elle amoindrit la sensualité, la capacité d'extase, d'abandon. Personne ne fait aussi bien l'amour que les enfants.
Vous mentiez donc quand vous disiez que vous étiez vierge?
Non. Dans le vocabulaire commun, le dépucelage masculin n'est possible qu'après la puberté. Or, je n'ai jamais fait l'amour après la puberté.
Je vois que vous jouez sur les mots, une fois de plus.
Pas du tout! C'est vous qui n'y connaissez rien. Mais j'aimerais que vous cessiez de m'interrompre continuellement.
Vous avez interrompu une vie. Souffrez qu'on interrompe vos logorées.
Allons donc. Mes logorées vous arrangent bien. Elles rendent votre métier tellement plus facile.
C'est un peu vrai. Alors allez-y pour la logorée du 13 août 1925.
Le 13 août 1925. C'était le plus beau jour du monde. J'ose espérer que chaque être humain a eu, dans sa vie, un 13 août 1925. Car plus qu'une date, ce jour-là était un sacre. Le plus beau jour du plus bel été, tiède. Et venteux, l'air léger sous les arbres lourds. Léopoldine et moi avions commencé notre journée vers 1 heure du matin, après notre sommeil rituel d'environ 1 heure et demie. On pourrait croire qu'avec de pareils horaires nous étions continuellement épuisés. Ce n'était jamais le cas. Nous étions tellement avides de notre Éden que nous avions souvent des difficultés à nous endormir. C'est à 18 ans, après l'incendie du château, que j'ai commencé à dormir mes 8 heures par jour. Les êtres trop heureux ou trop malheureux sont incapables d'absence aussi longue. Léopoldine et moi n'aimions rien autant que de nous réveiller. L'été, c'était encore mieux car nous passions les nuits dehors et dormions en pleine forêt, enroulés dans un couvre-lit en damas, perles, que j'avais volé au château. Celui qui s'éveillait le premier contemplait l'autre, et ce regard suffisait à le faire revenir. Le 13 août 1925, je m'étais éveillé le premier, vers 1 heure, et elle n'avait pas tardé à me rejoindre. Nous avions tellement le temps de faire tout ce qu'une belle nuit invite à faire, tout ce qui, au cœur du damas de moins en moins perles, de plus en plus feuilles mortes, nous élevait à la dignité d'hiérophante. Je me plaisais à appeler Léopoldine l'hier infante. J'étais déjà si cultivée, si spirituelle. Mais je m'égare.
Oui.
Le 13 août 1925, disais-je donc. Une nuit absolument calme et noire, d'une douceur insolite. C'était l'anniversaire de Léopoldine, mais ça ne signifiait rien pour nous. Depuis 3 ans, le temps ne nous concernait plus. Nous n'avions plus changé d'un atome. Nous nous étions seulement et prodigieusement allongés, sans que cette amusante étiration ait modifié notre complexion informe, imberbe, inodore, infantile. Aussi ne lui ai-je pas souhaité son anniversaire ce matin-là. Je crois avoir fait bien mieux. Avoir donné une leçon d'été à l'été lui-même. C'était la dernière fois de ma vie que je faisais l'amour. Je l'ignorais, mais sans doute la forêt le savait-elle, car elle était silencieuse comme une vieille voyeuse. C'est quand le soleil s'est levé sur les collines que le vent a commencé à souffler, chassant les nuages nocturnes et dévoilant un ciel d'une pureté presque égale à la nôtre.
Quel lyrisme admirable!
Cessez de m'interrompre! Voyons, où en étais-je?
Au 13 août 1925, lever du soleil post-coitum.
Merci, mademoiselle le greffier.
De rien, monsieur l'assassin.
Je préfère ma qualification à la vôtre.
Je préfère ma qualification à celle de Léopoldine.
Si vous l'aviez vue ce matin-là, c'était la créature la plus belle du monde. Une immense infante blanche et lisse, aux cheveux sombres et aux yeux sombres. L'été, à l'exception des très rares moments où nous allions au château, nous vivions nus. Le domaine était si grand que nous n'apercevions jamais personne. Aussi passions-nous l'essentiel de nos journées dans les lacs, auxquels j'attribuais des vertus amniotiques, ce qui ne devait pas être tellement absurde vu les résultats. Mais qu'importe la cause, seul compte ce miracle qui était quotidien, miracle du temps figé pour jamais, du moins, le croyons-nous. En ce 13 août 1925, nous avions toutes les raisons de le croire en nous contemplant l'un l'autre avec hébétude. Ce matin-là, comme chaque matin, j'ai plongé dans le lac sans hésiter et j'ai ri de Léopoldine, qui, elle, mettait toujours une éternité à rentrer dans l'eau glacée. Cette moquerie était un rituel de plus, auquel je prenais plaisir, car ma cousine n'était jamais aussi jolie à regarder que debout, un pied dans le lac, blême, riant de froid, m'assurant qu'elle n'y parviendrait pas, puis déployant peu à peu ses longs membres livides pour me rejoindre, comme au ralenti. Échassier frissonnant les lèvres bleues. Ses grands yeux pleins de terreur, la peur lui allait si bien, bégayant que c'était horrible.
Mais vous êtes d'un sadisme épouvantable.
Vous n'y connaissez rien. Si vous aviez quelque science du plaisir, vous sauriez que la peur et la douleur, et surtout les frissons, sont les meilleurs préludes. Quand elle s'était immergée à fond comme moi, le froid laissait place à la fluidité, à la douceur si facile de la vie dans l'eau. Ce matin-là, comme chaque matin d'été, nous avions mariné sans arrêt, parfois glissant à deux vers les profondeurs du lac, les yeux ouverts, regardant nos corps verdis par les reflets aquatiques, parfois nageant en surface, rivalisant de vitesse, parfois barbotant, accroché aux branches des saules, parlant comme les enfants parlent, mais avec un plus grand savoir de l'enfance. Parfois faisant la planche, durant des heures, buvant le ciel des yeux, dans le silence parfait des eaux glaciales. Lorsque le froid nous avait transpercés, nous nous hissions sur de grandes pierres émergées et nous nous laissions sécher au soleil. Le vent de ce 13 août était particulièrement agréable et nous séchait très vite. Léopoldine avait replongé la première et s'était amarrée à l'îlot où je me réchauffais encore. C'était à son tour de se moquer de moi. Je la vois, comme si c'était hier, les coudes sur la pierre et le menton sur ses poignets croisés, le regard impertinent et les longs cheveux qui, dans l'eau, suivait les ondulations de ses jambes à peine visibles, dont la blancheur lointaine faisait un peu peur. Nous étions si heureux, si irréels, si amoureux, si beaux. Et pour la dernière fois.
Pas d'élégie, s'il vous plaît. Si ce fut la dernière fois, ce fut de votre faute.
Et alors ? En quoi cela rend-il les choses moins tristes?
Les choses n'en sont que plus tristes, au contraire. Mais comme vous en êtes le responsable, vous n'avez pas le droit de vous en plaindre.
Le droit? Tout ce qu'il ne faut pas entendre. Je me fous du droit. Et quelle que soit ma part de responsabilité dans cette affaire, je me trouve à plaindre. D'ailleurs, ma part de responsabilité était quasi nul.
Ah oui? C'est le vent qui l'a étranglé?
C'est moi. Mais ce n'était pas ma faute.
Vous voulez dire que vous l'avez étranglé dans un moment de distraction?
Non, sotte! Je veux dire que c'était la faute de la nature, de la vie, des hormones et de toutes ces saloperies. Laissez-moi raconter mon histoire et laissez-moi être élégiaque. Je vous parlais donc de la blancheur des jambes de Léopoldine, cette blancheur si mystérieuse, surtout quand elle transparaissait sous la noirceur verdâtre des eaux. Pour rester en équilibre horizontal, ma cousine battait lentement de ses longues jambes, que je voyais remonter en alternance vers la surface. Le pied n'avait pas le temps d'émerger. La jambe redescendait déjà et s'engloutissait dans le néant avant de laisser place à la blancheur de l'autre jambe. Et ainsi de suite. Dans ce 13 août 1925, couché sur l'îlot pierreux, je ne me lassais pas de ce spectacle gracieux. Je ne sais pas combien de temps a duré ce moment. Il fut interrompu par un détail anormal dont la crudité me choque encore. Le balai des jambes de Léopoldine fit remonter des profondeurs du lac un mince filet de fluide rouge, d'une densité très spéciale, à en juger d'après son inappétence à se mêler à l'eau pure.
Bref, du sang.
Que vous êtes cru!
Votre cousine avait tout simplement ses premières règles.
Vous êtes immonde!
Ça n'a rien d'immonde, c'est normal.
Précisément!
Voici une attitude qui ne vous ressemble pas, monsieur Tache. Vous, ardent ennemi de la mauvaise foi, défenseur carnassier des langages crus. Vous voilà offusqué comme un héros d'Oscar Wilde pour avoir entendu appeler un chat. Vous étiez amoureux fou. Mais cet amour ne soustrayait pas Léopoldine au nombre des humains.
Si!
Dites-moi que je rêve. C'est vous, le génie sarcastique, la plume célinienne, le vivisecteur cynique, le métaphysicien de la dérision, qui proférait des niaiseries dignes d'un adolescent baroque?
Taisez-vous, iconoclaste! Ce ne sont pas des niaiseries.
Ah non. Les amours des petits châtelains, le jeune garçon amoureux de sa noble cousine, le pari romantique contre le temps, les lacs limpides dans la forêt des légendes, si ce ne sont pas là des niaiseries, alors rien n'est niais en ce bas monde.
Si vous me laissiez raconter la suite, vous comprendriez que ce n'est pas vraiment une histoire niaise.
Essayez donc de m'en convaincre. Ce ne sera pas facile, car ce que vous m'avez raconté jusqu'à présent m'a consterné. Ce garçon incapable d'accepter que sa cousine ait ses premières règles, c'est grotesque. Ça pue le lyrisme végétarien.
La suite n'est pas végétarienne. Mais j'ai besoin d'un minimum de silence pour la raconter.
Je ne promets rien. Il est difficile de vous écouter sans réagir.
Attendez au moins que j'ai fini pour réagir. Merde, où en étais-je? Vous m'avez fait perdre le fil de mon récit.
Du sang dans l'eau.
Juste ciel, c'est exact. Imaginez mon choc. L'intrusion brutale de cette couleur rouge et chaude au cœur de tant de lividité. L'eau glaciale, la noirceur chlorotique du lac, la blancheur des épaules de Léopoldine, ses lèvres bleues comme du sulfate de mercure, et puis surtout ses jambes, dont les imperceptibles épiphanies évoquaient par leur lenteur insondable quelques caresses hyperboènes. Non. Il était inadmissible qu'entre ces jambes-là, il puisse y avoir la source d'un épanchement répugnant.
Répugnant.
Répugnant. Je maintiens. Répugnant. Par ce qu'il était, et plus encore par ce qu'il signifiait. Sacre, affreux. Passage de la vie mythique à la vie hormonale. Passage de la vie éternelle à la vie cyclique. Il faut être végétarien pour se contenter d'une éternité cyclique. À mes yeux, c'est une contradiction dans les termes. Pour Léopoldine et moi, l'éternité ne se pouvait concevoir qu'à une première personne d'un singulier, singulier, puisqu'il nous englobait tous les deux. L'éternité cyclique, elle, suggère que des tiers viennent prendre le relais des vies des autres. Et il faudrait se satisfaire de cette expropriation, et il faudrait se réjouir de ce processus d'usurpation. Je n'ai que mépris pour ceux qui acceptent cette sinistre comédie. Je ne les méprise pas tant pour leur capacité ovine de résignation que pour l'anémie de leur amour. Car s'ils étaient capables d'un amour vrai, ils ne se soumettraient pas avec cette veulerie. Ils ne toléreraient pas de voir souffrir ceux qu'ils prétendent aimer. Ils prendraient, sans lâcheté égoïste, la responsabilité de leur éviter un sort aussi abject. Ce filet de sang dans l'eau du lac signifiait la fin de l'éternité de Léopoldine. Et moi, parce que je l'aimais à fond, j'ai décidé de la rendre à cette éternité, sans atermoyer.
Je commence à comprendre.
Vous n'êtes pas rapide.
Je commence à comprendre à quel point vous êtes malade.
Que direz-vous de la suite, alors?
Avec vous, le pire est toujours sûr.
Avec ou sans moi, le pire est toujours sûr. Mais je crois avoir évité le pire à une personne au moins. Léopoldine a vu mon regard se figer derrière elle. Et elle s'est retournée. Elle est sortie de l'eau à toute vitesse, comme épouvantée. Elle s'est hissée à côté de moi sur l'îlot pierreux. L'origine du filet de sang ne fit plus de doute. Ma cousine était révulsée, et je la comprenais. Pendant les 3 années précédentes, nous n'avions jamais évoqué cette éventualité. Il y avait comme un accord tacite quant à la conduite à adopter en pareil cas tellement inacceptable que pour préserver notre hébétude, nous avions préféré nous en tenir à un accord tacite.
C'est bien ce que je craignais. Léopoldine ne vous avait rien demandé. Et vous l'avez tuée au nom d'un accord tacite, issu des ténèbres malsaines de votre seule imagination.
Elle ne m'avait rien demandé explicitement. Mais ce n'était pas nécessaire.
Oui, c'est exactement ce que je disais. Dans quelques instants, vous allez me vanter les vertus du non-dit.
Vous auriez voulu un contrat en bonne et due forme, signé devant un notaire, hein?
J'aurais préféré n'importe quoi, à votre manière d'agir.
Peu importe ce que vous eussiez préféré, seul comptait le salut de Léopoldine.
Seul comptait votre conception du salut de Léopoldine.
C'était aussi sa conception. La preuve, chère mademoiselle, c'est que nous ne nous sommes rien dit. Je lui ai embrassé les yeux très doucement, et elle a compris. Elle a eu l'air apaisée, elle a souri. Tout s'est passé très vite. 3 minutes plus tard, elle était morte.
Quoi, comme ça, sans délai? C'est monstrueux.
Vous eussiez voulu que cela durât 2 heures, comme à l'opéra?
Mais enfin, on ne tue pas les gens comme ça.
Ah non, j'ignorais qu'il y avait des usages en la matière. Existe-t-il un traité des bonnes manières pour les assassins? Un précis de savoir-vivre pour les victimes? La prochaine fois, je vous promets que je tuerai avec plus de politesse.
La prochaine fois, Dieu merci, il n'y aura pas de prochaine fois. Entre-temps, vous me donnez envie de vomir.
Entre-temps, vous m'intriguez.
Ainsi vous prétendiez l'aimer, et vous l'avez étranglé sans même le lui dire une dernière fois.
Elle le savait. Mon geste en était d'ailleurs la preuve. Si je ne l'avais pas tant aimé, je ne l'aurais pas tué.
Comment pouvez-vous être certain qu'elle le savait?
Nous ne parlions jamais de ces choses-là. Nous étions sur la même longueur d'onde. Et puis, nous n'étions pas bavards. Mais laissez-moi raconter la strangulation. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler, mais j'aime y songer. Combien de fois n'ai-je pas revécu, dans l'intimité de ma mémoire, cette si belle scène?